Bonjour à tous. Je vais prier encore pour commencer ce moment. Prions. Oui, merci Seigneur pour la vie, pour la vérité et pour le chemin que nous avons en Christ. Merci Seigneur parce que tu entends nos cœurs, tu as entendu nos cris quand on ne te connaissait pas et tu entends encore maintenant nos cœurs grâce au sacrifice de Jésus. Et Seigneur, merci pour la parole qui est là et qui nous présente la bonne nouvelle à laquelle nous avons accès tout le temps. Seigneur, fais de ce moment un moment d'édification, un moment où on peut grandir, Seigneur, et un moment où on peut mieux te connaître et mieux te louer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est l'été, c'est les vacances, mais alors, au début du culte, on n'était pas si nombreux et finalement un peu plus nombreux. Et ça veut dire que vous êtes encore là à Bruxelles, et merci Seigneur pour ça. Et même si vous êtes là, j'espère que l'été est un temps propice en tout cas pour vous au repos et un moment où vous pouvez couper des activités que vous avez d'habitude. Et pour ce matin, j'ai choisi un texte dans l'évangile de Marc au chapitre 6. Alors, l'évangile de Marc, c'est ce qu'on a parcouru avec les ados pendant toute cette année. Donc là, je recycle un petit peu quelque chose qu'on a déjà fait avec eux. Donc s'il y a des ados qui sont là, désolé, vous avez déjà entendu ça. Mais pour les autres, peut-être que ce sera un peu nouveau. Mais je le dis aussi, c'est un passage dans le chapitre 6 qui parle des 5 pains et 2 poissons. Donc un passage très connu. Pas quelque chose de nouveau, mais je suis convaincu qu'il y a dans ce passage des choses pour nous encourager encore ce matin et durant cet été. Et donc je vous propose qu'on le lise, Marc chapitre 6, les versets 30 à 44. Marc au chapitre 6, les versets 30 à 44. Je lis à partir du verset 30. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied, on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà bien tardive, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert, il est tard. » Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et le leur donner à manger ?» Il leur dit, « Combien de pains avez-vous? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Et il prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils distribuent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Jusque là, notre lecture. Et ce matin, j'ai intitulé le message « Jésus, le bon berger qui prend soin de nous ». Jésus, le bon berger qui prend soin de nous. Et c'est vrai qu'à la lecture de ce passage, on voit presque deux événements. Du verset 30 au verset 34, un premier événement. Et la suite, ce qui est plus communément appelé le miracle, du verset 35 au verset 44. Et je vous propose qu'on le regarde dans ce sens, en deux parties. avant de passer un petit temps pour regarder des applications un peu plus concrètes pour nous. Et donc, le premier point, c'est Jésus invite au repos et offre sa compassion. Jésus invite au repos et offre sa compassion. Le verset 30 nous ramène au contexte de ce passage, qu'on peut lire à partir des versets 7 dans le chapitre 6, dans le même chapitre, et jusqu'au verset 13. Et c'est le passage où Jésus avait envoyé ses disciples, donc deux par deux, pour aller annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Il leur avait donné autorité, il leur avait dit d'aller avec des instructions assez précises. Et là, ce qu'on voit au verset 30, c'est le retour des disciples qui viennent faire un compte-rendu à Jésus de tout ce qui s'est passé. Et donc là, maintenant de retour, Jésus leur demande, alors qu'est-ce qui s'est passé? Et on peut imaginer les disciples commencer à raconter un peu tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont fait, les miracles qu'ils ont opérés, les guérisons, l'évangile qui prospère dans les cœurs. Mais finalement, Jésus a un souci et il leur dit assez vite, à partir du verset 31, « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » C'est vrai qu'on est conscient que le souci de Jésus dans sa mission, c'est d'annoncer l'évangile, mais à leur retour et au compte-rendu, l'une des premières choses qu'il leur dit, c'est « Venez, on se met à l'écart et on se repose. » La mission est importante, c'est vrai, mais le repos est vital ici. Et en fait, on comprend dans la suite pourquoi ce repos est vital. Parce que c'est expliqué, ils allaient et venaient, ils n'avaient même pas le temps de s'arrêter pour manger. Et on peut imaginer l'activité qu'il devait y avoir, tout ce chemin à pied qu'ils avaient parcouru, toute cette distance, tous ces lieux qu'ils avaient vus. Et finalement, le souci de Jésus ici, c'est « Venez ». On prend un petit temps, un petit congé, une petite demi-journée, même si on peut, on se met à l'écart dans un lieu un peu désert et on se repose. Le plan est donc de partir dans un endroit isolé, au calme, soufflé, faire un petit break. Et c'est ce qu'ils vont faire. On voit au verset 33, ils prennent la barque, ils s'en vont. Mais déjà, on a un indice que les choses ne vont pas exactement se passer comme prévu. Dès qu'ils arrivent de l'autre côté, en fait, on les avait reconnus. La foule qui les suivait depuis toujours, ceux qu'ils ont dû croiser quand ils annonçaient l'évangile, ben elle est encore là. Encore cette foule, encore ces gens qui nous suivent. Et en fait, finalement, rien de très différent de leur quotidien. Ils voulaient faire un temps à part, et finalement, c'est un temps un peu comme les autres. Et on peut facilement s'imaginer la réaction des disciples. J'imagine moi, en arrivant sur la barque et en voyant de l'autre côté encore toute une foule. Agacement, fatigue, ça devait souffler. Et en fait, c'est pas très différent de ce que nous aussi on peut ressentir quand on a prévu un petit moment au calme, juste une après-midi de sieste, juste un petit moment pour aller faire autre chose. Et là, c'est dimanche après-midi, 14h, vous avez réglé tout ce qui était à régler. C'est enfin le temps que vous allez vous accorder cette sieste que vous projetez depuis 6 mois. Et là, votre téléphone sonne et vous voyez le nom. Encore lui, encore elle. Et vous savez que ça va être une longue conversation, mais ça interrompt votre projet. Ou alors quelqu'un sonne à la porte et vous vous dites, mais non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était le temps calme, le temps où on était censé être tout seul. Eh bien, il y a quelqu'un. Et oui, tout ce projet de tranquillité ruiné par la foule. Je comprends aisément la réaction des disciples et je peux m'associer à ça en me disant le repos devait être nécessaire. Ils avaient besoin de ce temps calme, de s'isoler. Mais en fait, encore une fois, ce ne sera pas possible là. Ce sera une autre fois. Mais ce qui est frappant ici, c'est au verset 34, la réaction de Jésus. Parce que lui aussi était sollicité. Et en fait, les foules venaient pour lui. Les foules se déplaçaient à cause des signes qu'il faisait, de l'enseignement qu'il propageait, mais aussi parce que cette foule espérait que ce serait le libérateur. Il vivait l'oppression des Romains. Et enfin, il voyait quelqu'un qui annonçait quelque chose d'un peu différent. Lui aussi devait se sentir fatigué. Mais sa réaction qu'on lit au verset 34 est assez surprenante par rapport à tout ce qu'on lit avant. Quand il sortit de la barque, donc Jésus vit une grande foule et il fut rempli de compassion. Ça, c'est la réaction de Jésus. Il voit cette foule, il a tout simplement de la compassion pour elle. Et ce mot compassion, c'est un mot fort. Ce n'est pas un mot qui est utilisé à la légère parce que ça signifie littéralement prendre la souffrance de quelqu'un et la vivre nous-mêmes, s'associer à la souffrance de quelqu'un, être solidaire de cette souffrance et aussi éprouver un désir pour apporter un soulagement ou une solution. Et en les voyant, ce que Jésus éprouve, c'est qu'il souffre pour eux. Et on peut juste se demander pourquoi, mais en fait, c'est dans la suite du verset. Il souffre pour eux parce qu'ils sont comme des brebis sans berger. En soi, des bergers, on n'en voit plus trop de nos jours. Et on peut se dire, c'est pas si grave que ça, des brebis sans berger, une foule sans leader. C'est quand même pas un problème aussi grave. Mais en fait, pour Jésus, juste à sa réaction, on voit que c'est grave. Et c'est vrai, l'image du berger est courante dans la Bible. Elle est reprise à plusieurs endroits, dans des passages très célèbres. Mais c'est aussi quelque chose qui représentait la culture de leur époque. Un berger, c'était un leader, quelqu'un qui conduisait une troupe, ou des brebis, de façon littérale, ou alors des hommes. Et le berger avait deux rôles principaux. Le berger devait nourrir le troupeau, le faire paître, et le protéger. Ces deux choses. Et on voit que là, en regardant cette situation, Jésus voit une foule, mais sans berger, et donc sans protection, sans nourriture. Normalement, dans vos Bibles, cette petite citation de « brebis sans berger » doit être en italique ou entre guillemets, et avec, pour certains, une note qui ramène au passage de l'Ancien Testament où elle est tirée. Et en fait, cette citation est tirée de Nombre 27, Nombre chapitre 27, verset 17. Et pour mieux comprendre le souci de ce troupeau sans berger, en fait, il faut revenir à l'origine de cette citation de Nombre 27, 17. Et en fait, dans Nombre 27, 17, c'est Moïse qui prie le Seigneur parce qu'il lui a annoncé qu'il n'entrerait pas, lui, dans la terre promise. Mais Moïse intercède quand même pour que Dieu suscite un nouveau berger, un nouveau Moïse, un leader qui, lui, va aller conduire le peuple. Et il prie. Et on voit dans Nombre 27, 17 qu'il prie pour que le peuple ne soit pas comme des brebis sans berger. En fait, personne devant pour les guider, pour les conduire, pour les amener vers la terre promise. Et Dieu va exaucer la prière de Moïse parce qu'il va susciter Josué. Josué qui va venir et qui va remplacer Moïse dans sa situation. Mais si on revient à notre texte, là ici, Jésus voit une foule, un peuple, sans soins, sans conducteurs ou avec des conducteurs défaillants. Ils n'ont pas de berger. Et la conséquence directe, c'est qu'ils ne sauront pas se nourrir et qu'ils sont exposés aux prédateurs. Ça, c'est la conséquence. En quelque sorte, ils sont voués à périr spirituellement. Ça, c'est la vision que Jésus a quand il voit cette foule. Et on peut aisément comprendre que la faim, le repos, passent après cette priorité-là. Et on peut se demander qui sera leur berger à ce peuple? Qui les protégera des prédateurs? Qui les fera paître? Qui les nourrira? Parce que c'est le constat de Jésus, ils n'ont pas de berger. Et en fait, en allant encore une fois dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel 34, qui est une belle promesse de l'Ancien Testament, à partir du verset 11, on peut lire ceci. Dans Ézéchiel 34, à partir du verset 11. En effet, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'occuperai moi-même de mes brebis, je veillerai sur elles. Tout comme un berger part à la recherche de son troupeau, quand il se retrouve au milieu de ses brebis et qu'elles sont dispersées, je veillerai sur mes brebis et je les arracherai de tous les endroits où elles sont éparpillées. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Je passe au verset 14. Je les conduirai dans un bon pâturage et leur domaine se trouvera sur les hauteurs des montagnes d'Israël. Là, elles se reposeront dans un domaine agréable. Elles brouteront dans de riches pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, déclare le Seigneur l'Éternel. En allant vers cette citation de Ézéchiel 34, c'est juste pour revenir à la promesse que Dieu fait lui-même. Il voit une succession de leaders qui sont défaillants. Et en fait, la conséquence, c'est ce peuple devant Jésus sans leader. Et Dieu décide que lui-même sera le berger de son peuple. Il n'y aura plus d'intermédiaire. Il fera lui-même paître son troupeau. Il ira chercher lui-même les brebis où elles sont égarées. Il les nourrira lui-même. Il les conduira lui-même. Et en fait, là dans ce passage, on a le début de l'exaucement de cette promesse. Parce qu'on a Jésus qui va faire une chose, sa réaction face à ce peuple qui est perdu, des brebis sans berger, c'est tout de suite de leur enseigner la parole. Jésus se dit, ils sont perdus, la chose dont ils ont le plus besoin, c'est la parole. Et il leur enseigne beaucoup de choses. Cette réalité, elle n'est pas que pour ce peuple que Jésus voit en face à lui en sortant de la barque. C'est aussi une réalité pour nous ici aujourd'hui. Si on regarde le monde et qu'on le regarde avec attention, il ressemble à des brebis sans berger. Mais pour nous, la beauté de cette réalité, c'est que nous avons trouvé le berger, ou plutôt le berger nous a récupérés. Il nous a sauvés, il nous a délivrés de la mort, il nous donne de la nourriture, il nous assure la sécurité et il nous conduit. Dieu lui-même devient notre berger, celui qui nous nourrit, qui nous protège et qui nous sauve. Et ça, c'est une réalité extraordinaire et c'est déjà l'une des premières choses, une des premières sources de réjouissance de ce passage. Mais ça ne va pas s'arrêter là, parce qu'en plus de nourrir les âmes, Jésus aussi répond aux besoins physiques. Et c'est mon deuxième point. Jésus pourvoit la nourriture pour la foule affamée. Et très vite, se pose un nouveau problème, on le voit au verset 35. La foule est immense, il se fait tard, la foule a faim. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien autour. Oui, ils ont été enseignés pendant un long moment, mais là les disciples viennent dire à Jésus, « Jésus, il est tard, la foule n'a rien à manger, renvoie-les. » Et au verset 36, c'est vraiment la solution que les disciples donnent. Que faire dans cette situation? Une grande foule, pas de nourriture, rien à côté pour acheter quelque chose. La solution des disciples au verset 36, c'est « renvoie la foule ». Et on le voit à la fin du passage que c'était une foule de 5000 hommes. Et alors, ce récit est un récit particulier parce qu'il apparaît dans les quatre évangiles. Et en regardant dans Matthieu les quelques éléments en plus, on voit que cette foule, c'était sans compter les femmes ou les enfants. Et donc, on peut raisonnablement s'imaginer qu'on avait 5000 hommes, alors peut-être 10 000 personnes, 15 000, voire 20 000, mais prenons peut-être 10 000, tout simplement. Si nous sommes face à 10 000 personnes affamées autour de nous, un soir tard dans un lieu désert, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'option des disciples n'est pas si stupide. C'est même peut-être raisonnable et sensé. Il faut les renvoyer, il faut leur dire de partir, qu'ils aillent se débrouiller ailleurs. Mais là, il ne sera pas possible qu'ils restent. Mais au verset 37, comme souvent dans les échanges entre les disciples et Jésus, il va répondre quelque chose qui est déroutant. La solution de Jésus au verset 37, c'est « nourrissez-le vous-même ». Et là, on peut imaginer les disciples qui... Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? Ils sont peut-être 10 000, ils n'ont pas à manger, il n'y a rien à manger autour, ils n'ont pas d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Nourrissez-les vous-même. Déroutant. Presque un propos insensé. Et les disciples vont revenir avec une question, parce qu'ils ne vont pas se laisser défaire comme ça. Ils reviennent avec une question à la fin du verset 37. Faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et le leur donner à manger? Et en fait, pour bien comprendre L'affirmation des disciples ici, c'est 200 pièces d'argent. Donc une pièce d'argent ou un denier, c'était le salaire d'une journée de travail d'un ouvrier. Donc en gros, en voyant la foule, ce qu'ils estiment, c'est qu'il faut 200 jours de travail pour nourrir toute cette foule juste pour une soirée. C'est exorbitant. En regardant quelques spécialistes qui estiment ce qu'un denier ferait aujourd'hui, on serait entre 15 et 20 000 euros. Si on nous posait la question aujourd'hui, débourser 15 ou 20 000 euros pour nourrir une foule de 10, 15, 20 000 personnes, la plupart d'entre nous diraient, ben, déjà on ne les a pas. Et si on les avait, peut-être qu'on investira quelque chose d'un peu plus important qu'un seul repas. Et ça, c'est la réponse des disciples. Mais quand même, ce que Jésus leur dit, c'est nourrissez-les vous-même. Et je me suis amusé à faire un calcul. Si on fait un repas le plus basique possible, on imagine il y a 10 000 personnes. On ne s'occupe pas des locaux pour cuisiner, on ne s'occupe pas de l'énergie, on ne s'occupe pas des plats, pas de dessert, juste un repas, de l'eau. Le plus basique possible, je ne sais pas, du riz, et une sauce, peut-être même pas de protéines. Combien vous pensez que ça coûterait à l'individu? Pas entre 1, 2 euros, peut-être même 3. Mais ne serait-ce que cette somme, et même si c'est 1 euro, ça ferait 10 000 euros à débourser pour un seul repas. Ça renforce l'idée que c'est déraisonnable, impossible à faire. Cette foule est trop nombreuse, et même s'il y a de l'argent, ce serait de la folie de le dépenser pour un seul repas. Mais quand même, on peut s'interroger, si Jésus pose cette question, pourquoi il la pose aux disciples? Pourquoi il leur dit « nourrissez-les-vous, nourrissez-les vous-même ». Et pour ça, en fait, il faut remonter un peu au contexte de cette histoire. Le verset 30 nous explique qu'ils reviennent de mission, qu'ils reviennent d'un moment où ils sont allés annoncer l'Évangile, et on le voit dès les versets 7 du chapitre 6, et même les versets 8 et 9, je vais les lire, donc au chapitre 6. Le verset 8, « Il leur recommanda, donc Jésus, aux disciples, de ne rien prendre pour le voyage. » Enfin, je vais lire à partir du verset 7 même. « Alors il appela les 12 et commença à les envoyer deux par deux. Il leur donna autorité sur les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre pour le voyage, sauf un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni argent dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas mettre de chemise. » En gros, c'est la mission la plus basique aussi du monde. Vous partez, ben vous partez avec ce que vous avez sur vous, votre chemise, vos sandales, un bâton, pas d'argent, pas de pain. Allez en mission. Et pourtant, le compte-rendu qu'on lit de cette mission au verset 30, c'est que la mission a été un succès. Ils reviennent, il s'est produit des choses miraculeuses, et Jésus a pourvu en fait à toutes les étapes. Donc s'ils reviennent après être allés en mission sans avoir ni argent ni pain, ça veut dire qu'ils ont mangé, qu'ils ont eu quelque chose quand même pendant le chemin. Et je pense que Jésus essaie de leur attirer l'attention. Vous vous souvenez d'où vous venez, de la mission que je vous ai confiée, de l'ordre que je vous ai donné. Eh bien, si vous êtes allés à cette mission sans argent, sans pain, et que vous êtes revenus vivants avec une mission qui a réussi, mais c'est que Dieu a pourvu. Mais même si on remonte encore plus loin dans l'histoire et dans l'évangile de Marc, Jésus devant eux, juste quelques instants avant, quelques passages plus tôt, dans le chapitre 4, a apaisé la tempête devant eux. Jésus dort dans la barque, il y a une tempête, ils sont en panique, ils réveillent Jésus, Jésus se lève et il dit « silence, tout s'arrête ». Miracle extraordinaire. Jésus a autorité sur les éléments. Jésus a guéri un démoniaque, chapitre 5. Et à la fin du chapitre 5, Jésus a guéri cette femme atteinte d'hémorragie et qui vient et qui le touche et qui finalement est guérie. Et même dans la suite, Jésus ressuscite la fille de Jaïrus. En fait, tout ça mis bout à bout, qui est un peu l'expérience commune de Jésus et des disciples avec lui, nous amène à nous dire finalement, en évaluant les propositions des disciples, c'est-à-dire de renvoyer la foule au verset 36, et de Jésus de leur dire « nourrissez-les vous-même », finalement, le plus raisonnable dans l'histoire, c'est Jésus. Si vous avez vu tous ces exemples, si vous avez été témoin de tous ces miracles, si Dieu a pourvu à toutes ces étapes, pourquoi il ne le ferait pas là? Ça, c'est la question que Jésus leur pose. Si nous avons été témoins nombreuses fois dans notre vie du miracle de Jésus, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a produit, tout simplement du salut, mais qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Ça, c'est la question qu'il leur pose. En gros, où est votre foi? Où est votre confiance? On voudrait raisonner de façon très terrestre et mathématique en se disant « chair, impossible, il n'y a rien, il faut renvoyer, il faut en gros abandonner ». Mais Jésus lui voit plus loin parce que lui aussi est au bénéfice de tous ces miracles. Il les a produits devant les disciples. Donc c'est juste la preuve que Dieu intervient et que Dieu pourvoit. Et que là aussi, dans cette situation, il peut pourvoir. Et c'est ce qui va se passer dans la suite. Et c'est alors un événement que vous connaissez tous. Ils font l'inventaire. Il y a 5 pains, il y a 2 poissons. Il y a 5 000 hommes, une foule de plus de 10 000 personnes, certainement. Jésus prend les 5 pains, les 2 poissons, les lève au ciel, fait la prière de reconnaissance et les partage entre tous. En vrai, dans ce récit, c'est assez subtil, mais on ne sait pas ce qui se passe. On ne voit pas le miracle. On ne sait pas si les pains sont multipliés. On ne sait pas. La seule chose qu'on voit, c'est la fin du miracle et son envergure. Au verset 42, on partait d'une foule d'ailleurs, au début, verset 35, une foule qui n'a rien à manger. Et au verset 42, tous mangèrent et furent rassasiés. C'est-à-dire, des petits mangeurs, ceux qui ont mangé peut-être une portion, aux gros mangeurs, un peu plus comme moi, qui ont mangé peut-être 3-4 portions, tous ont mangé et étaient rassasiés. Il n'y en a pas un qui est revenu en se disant, ouais, pff, là j'ai eu faim quand même, j'ai dû aller acheter quelque chose en plus. Non, tous étaient rassasiés. Et c'est juste le symbole de l'envergure du miracle. Et ça continue. Au verset 43, on emporta 12 paniers des restes. On est d'accord, on est parti de 5 pains et 2 poissons. On aboutit avec 12 paniers de restes, avec une foule qui a mangé à satiété. Et Marc rajoute, ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5 000 hommes. Juste pour montrer l'envergure du miracle encore une fois. Donc en fait, ce Dieu que les miracles ont vu à l'œuvre avant, mais en fait c'est le même qui est à l'œuvre ici. C'est le même qui produit tous ces événements. Mais finalement, la simple question qu'il leur pose, c'est « Où est votre foi ?» Si les choses semblent impossibles pour nous, irréalisables, mais est-ce qu'on n'est pas en train de réagir par rapport à nos propres limites, nos propres raisonnements, les choses conscientes qu'on peut toucher, palpables, et est-ce qu'on n'est pas en train, petit à petit, de limiter Dieu dans son action? Et ça, c'est la question que les disciples pose. Tous mangèrent et furent rassasiés. Extraordinaire. C'est un miracle de grande ampleur. C'est vrai que quand on lit cette histoire, on se souvient de ce miracle, mais le processus pour arriver à ce miracle est intéressant. Il montre à quel point on a besoin de se rappeler de ce que Jésus a fait constamment et de se rappeler que ces choses qu'il a faites, il les a faites pour nous et que ses promesses sont valables pour nous aussi. Et qu'alors, face aux difficultés que nous avons devant nous, mais en fait, à lui, rien n'est impossible. Notre confiance devrait grandir. Oui, Jésus est capable de choses extraordinaires pour répondre à nos besoins. Et en tant que notre berger, il ne répond pas seulement à nos besoins spirituels, mais il répond aussi à nos besoins physiques. Il va au-delà d'enseigner la parole, il nourrit les foules physiquement. Pour terminer par 5 petites applications concrètes pour nous, c'est vraiment de regarder pour nous aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut en tirer dans notre vie quotidienne de chrétien, et là, durant cet été. Mais déjà, la première chose que je retire, c'est on a besoin de repos. Je ne sais pas quelle a été votre année jusqu'ici, je ne sais pas ce que vous avez fait, que ce soit au travail, en études, ou alors dans quelques domaines que ce soit, mais on a tous besoin de repos, n'est-ce pas ? Tous besoin de s'arrêter un peu, de s'isoler, de souffler, de reprendre de l'énergie parce que notre année est centrée sur les vacances scolaires, mais en septembre, c'est reparti. Que ce soit le service à l'église, que ce soit tout le reste, on a besoin de se ressourcer physiquement. Mais aussi, ces temps de repos sont des temps où on peut se tourner et être un peu plus attentionné avec les autres, prendre plus le temps avec les frères et sœurs, peut-être s'inviter, peut-être passer du temps ensemble, s'appeler, mais au moins avoir un rythme différent de celui qu'on a d'habitude. Et c'est une vraie nécessité. Et toutes les catégories doivent prendre du repos. Parce qu'un mal de notre société qui est en ce moment et qui détruit des familles, des vies, c'est le burn-out, la dépression, le surmenage. Et tout le monde y est susceptible. Qu'on soit étudiant, qu'on soit retraité, qu'on soit en activité, quel que soit ce qu'on fait, si on va plus loin que nos limites physiques, on craque. Et c'est ce que Jésus leur conseille aussi, repos. Repos. La deuxième chose, c'est la compassion nécessaire à l'annonce de l'Évangile. Et ça aussi, ça me frappe, parce que je viens juste de le dire avant, le repos est nécessaire, mais là, dans l'histoire, la compassion est allée au-dessus de la nécessité de repos. Parce que finalement, en voyant cette foule, l'une des pires choses qu'on peut faire, c'est juste d'être désintéressé. Ils sont sans berger, ouais, c'est grave, et on continue notre vie. Un peu comme on regarde l'actualité, on voit un tremblement de terre à des milliers de kilomètres d'ici, on se dit « waouh, terrible !» Et notre vie continue. Mais en fait, si la compassion est là, elle va au-delà de juste réaliser leur souffrance, c'est souffrir avec les autres et c'est essayer de trouver une solution à leurs problèmes. Et nous, nous savons la solution de ce monde sans berger, livré à lui-même, sans nourriture, donc à risque de mourir, exposé à l'ennemi qui va les dévorer. Et donc le bout, c'est la mort spirituelle pour ce monde. Quand on voit nos collègues, nos amis de travail, ceux de notre famille qui ne connaissent pas le Seigneur, on devrait avoir ce regard de Jésus, compassion, parce qu'ils n'ont pas encore de berger. Et alors, mettre tous nos efforts pour qu'ils connaissent le vrai berger, Jésus, en leur annonçant la bonne nouvelle. Mais on a besoin de cette compassion pour regarder les autres. Le troisième point, c'est ce qui vient de donner-leur vous-même à manger. Et c'est quelque chose que, en travaillant le texte, qui est ressorti assez vite pour moi, on ne peut pas annoncer l'évangile à un ventre vide. Si le ventre est vide, on ne peut pas écouter. On a besoin de quelque chose dans le ventre pour entendre ce que vous êtes en train de nous dire. Et je suis conscient, la mission principale de l'Église, c'est l'Évangile. Le vivre et l'annoncer. Mais si on va l'annoncer et que les gens ont faim, on devrait les nourrir. Et c'est valable en tant qu'Église, mais aussi à titre individuel. On ne peut pas être juste indifférent à la pauvreté dans cette société. Et c'est frappant parce que la Belgique est un pays riche, développé, et pourtant il y a encore des gens qui sont en précarité alimentaire, qui doivent faire des choix entre l'énergie ou la nourriture ou alors d'autres choses. Des gens qui vivent de la banque alimentaire, qui dépendent des associations. Et ça, c'est la réalité qu'on voit autour de nous partout. Mais nous aussi, étant ancrés dans cette société, on ne peut pas juste dire « nous, c'est l'Évangile et le reste, ils se débrouillent, ils vont voir le CPAS ». Si on voit que les gens ont faim, on devrait prévoir quelque chose pour qu'ils mangent. La société est terrible, des familles isolées, des gens isolés tout court, des gens qui ont des handicaps, qui ne peuvent plus travailler, des gens qui sortent d'addiction, des gens qui ont des parcours qui se sont déroutés, des étudiants précaires, toutes ces choses-là existent. Soyons sensibles à ces choses quand nous partageons l'Évangile et même soyons sensibles à ces choses tout court. La quatrième chose, c'est un miracle authentique. Je veux faire attention quand je parle de ce miracle et quand j'explique qu'on peut faire confiance à Dieu pour tout. Bien sûr, je ne limite absolument pas la puissance de Dieu. Il peut tout parce qu'il est tout puissant. Et je ne suis pas en train de vous dire, si vous avez faim, asseyez-vous chez vous et priez et attendez que Dieu vous donne de la nourriture. Non, ce n'est pas exactement ce que je suis en train de dire. Parce que si on y réfléchit, dans l'évangile de Marc, les gens sont attirés par Jésus parce qu'il fait des miracles. Ils veulent voir des choses extraordinaires, ils veulent voir des signes, ils veulent voir des prodiges. Ils veulent peut-être, et il y a le récit de la deuxième multiplication de pain, où il y a un peu plus de monde parce qu'ils ont déjà entendu parler de la première multiplication des pains. Mais nous, on n'est pas à la course au miracle. Finalement, le miracle le plus grand qui devait se passer a été fait à la croix et on vient de le commémorer. Nous, notre but, en lisant ces passages, c'est d'être convaincus que ce miracle est authentique et que s'il est authentique, celui qui l'a fait est tout-puissant et que nous pouvons compter sur lui. Et alors, on doit lutter contre cet ennemi qui est à l'intérieur, qui est l'incrédulité. C'est-à-dire, on voit des choses, on peut les croire, mais quelquefois on doute. Et en fait, c'est le cas des disciples. Et je vais juste vous lire dans ce même chapitre 6, au verset 51 et 52, ce qui se passe. Alors, il se passe un autre miracle, Jésus marche sur les eaux, les rejoint dans la barque, ils sont effrayés. Et Marc dit ça, au verset 51, « Puis il monta près d'eux dans la barque, et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. » En gros, Marc est en train de souligner que le miracle de la multiplication des pains et du poisson, les disciples ne l'avaient toujours pas compris, parce que leur cœur était endurci. C'est un risque pour nous aussi de lire ces choses et de se dire « Ouais, ça a du sens, peut-être qu'on y croit. » Mais en fait, on y croit de façon intellectuelle et en fait, ce n'est pas quelque chose qui arrive jusqu'au cœur pour dépendre totalement de Dieu. L'incrédulité est vraiment un ennemi parce qu'il peut nous éloigner de Dieu et même nous détourner du chemin qu'on a. Ensemble, on doit s'encourager à croire de plus en plus, à faire confiance de plus en plus au Seigneur et on doit passer de plus en plus de temps dans nos Bibles parce que c'est là que la parole de Dieu est et c'est là que Dieu se révèle. Et la dernière chose, dernière application concrète, c'est Jésus est notre berger. Et c'est lourd de sens. Nous ne sommes plus juste des gens conduits par des humains, nous sommes conduits par le Dieu Tout-Puissant lui-même, qui en fait est venu sur cette terre, a vécu cette vie, a porté notre péché et est mort sur la croix pour nous, afin de nous offrir sa vie. Et donc il est capable de répondre à tous nos besoins. Nous n'avons plus besoin d'autre chose pour être comblés. Tout est en Christ. Et alors notre assurance devrait être d'autant plus ferme parce qu'il a tout accompli. Nous n'avons plus besoin de dépendre d'hommes pour savoir quoi faire dans notre vie, de dépendre d'hommes pour vivre, de dépendre de l'avis des autres, de dépendre de l'opinion de tout le monde. Non, nous avons un seul berger. Il nous conduit, il ouvre le chemin et on le suit. Rassurant pour une brebis. C'est spectaculaire de voir un troupeau qui suit son berger parce que le berger se déplace et les brebis le suivent. Tout simplement parce qu'elles comprennent que tout dépend de lui. Et s'il y a un danger, lui viendra les sauver. Et vraiment, c'est pour nous ça la bonne nouvelle, de savoir que nous avons le vrai bon berger pour nous. Et je veux juste terminer en lisant le psaume 23 qui pour moi résume ce que c'est que le bon berger pour nous et l'assurance que David a qu'il est protégé de tous les dangers. Je vais juste lire le psaume 23 pour finir. De David, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite est ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.